L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Gloire à Dieu. Alors, vous êtes tous ici encore avec moi ce matin? Vous êtes vivants, réveillés? Super. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, le thème de l'enseignement s'intitule « Obama, Oprah et Osée ». Vous connaissez tous ces personnages-là. Peut-être celui que vous connaissez le moins, c'est Osée. J'oserais dire. Vous connaissez Obama, vous connaissez Oprah, mais Osée, mais c'est qui ce bonhomme-là? Ben, Osée, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Et son ministère, c'est assez particulier parce que, bon, Dieu l'avait appelé comme un prophète. Et une des choses que le Seigneur lui demandait de faire, il a dit, tu vas marier une femme qui deviendrait une prostituée. OK? Et tu vas avoir des enfants avec elle, et puis elle va te tromper. Et par la suite, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être une illustration vivante de la situation d'Israël. Une illustration, comme vous savez, le baptême, quand on passe par les eaux du baptême, on fait une illustration, on est en train d'illustrer ce qui s'est passé dans notre cœur. Bon, on a laissé notre vieille vie de péché dans l'eau et on ressort une nouvelle personne vivante pour le Seigneur. Ça, c'est une illustration. Mais imaginez de vivre une illustration à temps plein en mariant une femme prostituée. C'est tout un mandat. Et qu'est-ce que ça faisait? C'est que les gens d'Israël pouvaient voir, le peuple de Dieu, les Juifs, pouvaient voir cet homme qui était marié avec cette femme, et puis sa vie, c'était l'illustration de l'état spirituel d'Israël. Donc, Israël, c'était une nation, même s'ils connaissaient la parole de Dieu, c'était une nation qui avait abandonné Dieu et qui vivait dans l'adultère spirituel. L'adultère spirituel. Et on va voir ça ensemble et vous allez dire, mais pourquoi Obama et pourquoi Oprah? Est-ce que je vais prêcher sur la politique ce matin? Non. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que Obama et Oprah, ce sont des Américains, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez pas m'accuser de faire de politique parce qu'on peut pas voter pour eux et on peut pas, ben, Oprah est pas en politique de toute façon. Mais tout ça pour vous dire que je vous parle des personnages qui ont beaucoup d'influence aux États-Unis et quand on a de l'influence aux États-Unis, on a de l'influence ailleurs, n'est-ce pas? Vous connaissez tous Obama, je pense, vous avez entendu parler de cet homme-là, Oprah Winfrey, la majorité d'entre vous? Oui, bon, c'est une femme d'influence, et il y en a même qui ont décrit Oprah, justement, comme étant une gourou de ce temps-ci, et en fait, ça fait plusieurs années, et on va voir ensemble qu'est-ce qu'elle prêche, parce que vous savez, on peut avoir des évangélistes à la TV, ils vont payer du temps d'antenne pour passer le message de la Sainte Bible. Et il y en a d'autres qui sont payés pour être à la télévision. Et puis, ils vont partager leurs croyances spirituelles. Et Oprah, c'est justement une femme comme ça qui partage publiquement ce qu'elle croit. Et on va voir ensemble si ses croyances sont en harmonie avec la parole de Dieu. Et pourquoi faire une comparaison comme ça? Bien, c'est parce que dans le monde dans lequel nous vivons, on a beaucoup de gens qui croient toutes sortes de choses. Et de nos jours, les gens disent toujours, il faut faire attention, il faut respecter tout le monde dans leurs croyances. Et certainement, on donne le droit à tous les gens, à tout le monde, à croire dans n'importe quoi. Absolument. Tout le monde a le droit de croire dans les extraterrestres, ils peuvent croire dans toutes sortes d'affaires. On a le droit. Cependant, une des choses qui est importante également, c'est de réaliser, c'est que on a le droit également de croire en Jésus et de s'affirmer et de croire que moi, je choisis de croire en Jésus et de ne pas croire dans d'autres choses. Et dans notre société, on dit que tous les chemins mènent à Dieu. Et ce matin, on va s'attarder vraiment à cette question-là. Est-ce que tous les chemins mènent à Dieu? Et si les chemins ne mènent pas tous à Dieu, est-ce qu'on a le droit de croire que Jésus est le chemin, la vérité, la vie? Vous allez dire oui. Mais savez-vous, je crois qu'on va toucher des gens même au-delà de cette place ici. On va toucher des gens partout à travers la francophonie qui se posent peut-être la question aujourd'hui. Est-ce que tous les chemins mènent à Dieu? Et on va voir ensemble que c'est pas d'être méchant d'affirmer la vérité. Si vous êtes dans une maison, OK, qui est prise en feu, et moi je suis à l'extérieur, et puis je vous dis, la porte est là, la porte est à ta gauche, va trouver la porte. Et puis moi je suis là, je suis en train de te communiquer, et la personne dit, mais moi, je suis convaincu que la porte est par là-bas. Je suis convaincu qu'elle est par là-bas. Mais non, elle est là, je la vois, moi, de l'extérieur, je sais. Mais moi, je suis convaincu dans mon cœur, je suis vraiment honnête dans mon cœur que c'est en arrière, là. Et puis la personne essaie. Est-ce qu'on manque d'amour en lui disant la vérité que la porte est vraiment là? Non! Non, quand on aime vraiment quelqu'un, on va lui dire, écoute, la porte de sortie est là. Et c'est ça qu'on va faire. Aujourd'hui, on va diriger les gens vers la porte de la vie éternelle. Et puis, on veut aimer tout le monde, on vous respecte, vous avez le choix de croire dans n'importe quoi, on va vous aimer quand même. Cependant, on va vous prêcher celui que la Bible nous présente et on va vous présenter son message ce matin. Donc, si vous connaissez pas le Seigneur Jésus encore d'une façon vraiment personnelle, aujourd'hui, c'est votre rendez-vous divin. Amen. Vous pouvez dire rendez-vous divin. C'est un rendez-vous divin. Amen. Alors, ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Jean chapitre 14 et le verset 6. On va avoir du bon temps ensemble ce matin. Gloire à Dieu. C'est une bonne affaire, hein? Alors, on va juste commencer, on va prier, on va remettre ce temps au Seigneur. Père éternel, je te remercie, Seigneur Dieu, pour le privilège qu'on a d'avoir ta parole, la Sainte Bible. Je te remercie, Seigneur, pour l'audace que tu me donnes ce matin de prêcher ta vérité sans compromis. Je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui est ici aujourd'hui. Je te remercie que toutes nos pensées sont rendues captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, pour l'esprit de révélation dans cette place. Et merci d'affranchir ceux qui croient dans toutes sortes de mensonges. Merci pour la liberté. Seigneur, dans ta parole, te dit de vous connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Alors aujourd'hui, on te remercie pour cette promesse. On te remercie pour la liberté dans cette maison au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, il y a toutes sortes de croyances populaires et des fois, les gens disent, mais faut pas faire de discrimination. Faut faire attention. Et certainement, on veut respecter le choix des gens. Cependant, c'est bon de faire la discrimination contre les choses qui sont mauvaises. Savez-vous, je fais la discrimination contre la pédophilie. Amen. Il y en a, il faut jamais parler contre personne. Non, mais ça, c'est contre mes valeurs personnelles. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Au Canada, j'ai encore le droit de le dire. Heureusement, je m'en vais pas en prison de dire ça. Dans quelques années, je pense que ça va changer. Savez-vous, le courant est en train de changer. Cette semaine, j'écoutais à la télévision des nouvelles et puis il y avait un nouveau livre qui venait de sortir sur la pédophilie et comment c'était correct et comment on devrait dire que c'est correct. Vous êtes choqués par ça. Moi, j'étais choqué, mais la société s'en va de pire en pire en pire en pire. C'est dégueulasse. Je m'excuse, c'est absolument épouvantable de voir des choses comme ça qui sont véhiculées à la télévision. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire que moi, je crois pas là-dedans? Oui, j'ai le droit. Et si eux ont le droit de dire que c'est correct, moi, j'ai le droit de dire, je fais la discrimination contre les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Je vais marcher dans la vérité et je sais que ça va nous coûter cher parfois de marcher dans la vérité et de pas toujours se faire aimer. Mais savez-vous, dans les médias, on écoute la télévision et tout le monde veut faire plaisir à tout le monde. Mais c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. On peut dire, ben je veux pas déranger personne. Mais aujourd'hui, que Dieu vous dérange. S'il y a des choses qui vous dérangent ce matin, que ça soit pas moi, mais que ça soit Dieu qui vous dérange à un tel point que vous allez dire, OK, Seigneur, je te donne ma vie. Je vais arrêter de juger de ma jugeote, de mes pensées. Je vais commencer à voir les choses comme toi, tu vois les choses. Amen. Alors, ce matin, on va parler de l'adultère spirituel. Quel thème excitant. Et on va voir comment les pensées du monde s'infiltrent dans l'Église aujourd'hui et comment on doit aller, comme on dit, on va au médecin, on vit un rain check, un check-up en français, je sais pas trop. Un examen général. On va faire un examen général de notre foi et voir est-ce qu'on a été contaminé par les pensées du monde. Est-ce qu'on croit comme le monde que tous les chemins mènent à Dieu? On va voir ça ensemble. Donc, Oprah Winfrey, qui est une femme qui influence beaucoup de personnes aux États-Unis, elle est bien aimée, elle a une belle personnalité, blablabla, c'est merveilleux, mais elle prêche des choses et les gens qui l'écoutent réalisent pas nécessairement qu'elle est en train de prêcher un message parce qu'elle se dit chrétienne. Savez-vous, vous pouvez vous dire chrétien et croire des choses contraires à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit connaître la Bible. On doit passer du temps à lire le message de la parole de Dieu pour vraiment la saisir, mais saisir ce message-là et grandir et de discerner qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Donc, une des choses numéro un de l'évangile de Oprah Winfrey et qui est vraiment populaire au Québec aussi, on pourrait changer ce nom-là par plein de gourous, plein de noms de gourous, surtout ceux qui ont touché beaucoup au Nouvel Âge, la croyance numéro un, c'est que tous les chemins mènent à Dieu. Mais dans Jean, chapitre 14 et le verset 6, il est écrit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça, c'est Jésus qui a déclaré ça. Une fois, j'étais en train de me faire couper les cheveux et je parlais, c'est un homme musulman qui me coupait les cheveux et j'ai demandé au monsieur, j'ai dit, vous croyez en Jésus? Ben, je savais qu'eux, ils croyaient que c'est un prophète. Oh oui, certainement, je crois que c'est un prophète de Dieu. J'ai dit, ben, croyez-vous que le prophète de Dieu dit la vérité? Oh, certainement, le prophète de Dieu dit la vérité. J'ai dit, bien, quand Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, croyez-vous qu'il disait la vérité? Oh, ben, là, je suis pas sûr. Ça change le discours. Ça change le discours. Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 22-23, je peux vous dire que la Bible n'est pas populaire. Ce n'est pas l'évangile populaire qu'on vous prêche aujourd'hui. Peut-être ailleurs, oui. Vous savez, des fois, moi, je suis sidéré quand je vois ça. Il y a toutes sortes d'histoires dans le monde. On va baptiser, admettons, un bébé. Et les parents, en fait, le baptême, c'est là pour dire qu'on s'engage envers Dieu ou une consécration d'un enfant. On va dire, on s'engage devant Dieu à enseigner cet enfant-là dans les voies de Dieu, n'est-ce pas? C'est comme ça. Habituellement, on va consacrer un enfant parce qu'on dit, on va prier pour l'enfant, tout ça. Et on dit, on s'engage, on veut élever cet enfant-là devant Dieu, dans le chemin de Dieu. Mais qu'est-ce qui est vraiment bizarre, c'est que quand les parents ne croient pas en Dieu et qu'ils font baptiser leurs enfants, ça, je trouve ça bizarre. Comment est-ce qu'on peut s'engager à inculquer les valeurs chrétiennes dans la vie de l'enfant quand on ne marche pas avec Dieu? Vous êtes choqués peut-être. Il y en a qui vont faire baptiser leurs enfants parce que ils disent, ben là, c'est ma parenté qui veut ça. Mais ça, ça vaut rien. Faut avoir une révélation personnelle. Et faut, de toute façon, ici, on baptise ceux qui sont assez vieux pour grandir et qui sont assez vieux pour saisir le message. Un enfant ne saisit pas le message du salut encore. Faut qu'il grandisse et qu'il grandisse dans les voies de Dieu. Mais ici, dans 1 Jean, chapitre 2, versets 22 à 23, ça dit, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Et j'écoutais des choses où Oprah disait, récemment, elle disait à la télévision, autrefois, je croyais que Jésus était venu sur la terre pour se faire crucifier, payer la dette de nos péchés et qu'on soit pardonné. Autrefois, je croyais comme ça. Mais étant chrétien, aujourd'hui, j'ai réalisé que Jésus est venu afin qu'on reçoive une conscience du Christ en nous et que nous avons tous Christ en nous. Ça vous choque peut-être parce que vous connaissez la parole de Dieu, mais on est en train de nier la raison pourquoi Jésus est venu sur la terre. Quand on réalise que Dieu est amour, que Dieu voit notre situation en tant qu'être humain, et puis Dieu veut venir nous sauver de l'enfer, il veut nous sauver des choses qui nous séparent de lui. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Et des fois, on se dit, mais pourquoi Jésus est venu sur la croix? Pourquoi Jésus est venu? Mais on réalise une chose, c'est que l'être humain qui s'est rebellé contre Dieu, qui a été en rébellion, il s'est détourné de Dieu, et cette rébellion a fait en sorte qu'il y ait une brisure entre la relation de l'homme et Dieu. Et même si l'homme a essayé de retourner à cette relation avec Dieu, même si l'homme a essayé toutes sortes de choses, il s'est inventé toutes sortes de religions pour essayer de regagner cette faveur auprès de Dieu. Il a essayé de 10 000 façons, mais toujours ça ne marchait pas. Parce qu'il y a une seule personne qui pouvait nous réconcilier avec Dieu et son nom est Jésus. Parce que quand on réalise que nous sommes tous pécheurs et nous savons que le critère d'entrée au ciel, c'est la perfection, nous réalisons tous que c'est impossible pour nous d'être réconciliés avec Dieu par nos propres forces. Et la religion enseigne que c'est par nos forces qu'on mérite le salut. C'est par nos efforts personnels qu'on va rentrer au ciel. Certaines religions vont dire, ben, si vous faites assez de portes les samedis matins, allez frapper sur plusieurs portes. Et si vous frappez sur assez de portes, peut-être Dieu ne vous détruira pas dans l'Armageddon. Il y a, vous savez, toutes sortes de choses. Si vous donnez assez d'argent, là, peut-être vous pourrez acheter votre ciel. Si vous faites ci, si vous faites cela, vous pourrez acheter votre ciel. Mais avec Dieu, ce que Dieu nous dit, c'est que nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin de lui. Et quand on réalise, c'est vrai, je suis pécheur, c'est vrai, je suis pas capable d'accéder à Dieu par mes forces personnelles, j'ai besoin d'être pardonné. Et je réalise que Jésus a vécu cette vie parfaite sur la terre, il a reçu la punition que je méritais, mais c'est lui qui l'a portée, il a porté ma punition. Et là, quand je crois en lui, je crois dans l'œuvre qu'il a faite à ma place. C'est comme si vous allez au restaurant, vous mangez un super de bon repas et là, vous voulez payer pour votre repas et en arrivant à la caisse, la dame, la serveuse vous dit, « Monsieur, quelqu'un a déjà payé votre billet. » Et c'est comme ça avec l'Évangile. Jésus a déjà payé notre entrée au ciel, ça ne nous coûte rien. Ça coûte rien pour entrer au ciel. On a juste besoin de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Lave-moi, purifie-moi. Je sais que je suis pas capable d'être parfait par mes propres forces, mais toi, tu es capable de me laver parfaitement. Et quand on est lavé parfaitement par le Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrivait aux saints dans la Bible et puis il les appelait justement les saints. Nous sommes saints, nous avons été sanctifiés, lavés, purifiés. Et aujourd'hui, si je me tiens devant vous, je suis sûr à 100% que si je mourais dans un instant, que je passerais l'éternité avec Dieu. Pourquoi? C'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est parce que j'ai placé ma foi en celui qui m'a sauvé. L'Évangile, c'est tellement simple, c'est tellement facile à comprendre. Ça prend les hommes pour compliquer le message de Dieu. Ça prend les hommes pour compliquer, pour essayer de nous faire perdre le message. Le message est simple. Nous sommes pécheurs. Jésus est venu pour payer le prix pour les pécheurs. On le reçoit dans notre vie. On lui demande de nous pardonner. On le fait non seulement un Seigneur intellectuel, un sauveur où on croit, oui, il est venu, mais on lui demande de devenir le maître de notre vie, le Seigneur. Et quand il devient le Seigneur de notre vie, ben là, vous allez dire, ben là, c'est plus difficile. Mais des fois, c'est plus difficile parce que là, on doit se tenir debout comme enfant de Dieu. Et on doit résister la pression du monde qui veut, cette pression qui voudrait nous influencer à délaisser le Seigneur. Mais quand on tourne nos regards vers Dieu, la Bible nous dit, nous sommes rayonnants de joie. C'est pour ça qu'on peut avoir la joie dans notre cœur. C'est pour ça qu'on peut chanter le dimanche matin et se réjouir parce qu'on a vécu un miracle. Vous savez, la nouvelle naissance, c'est pas juste le fait d'avoir fait une petite prière comme ça. On a réalisé qu'on était sans Dieu. Quand on a la réalisation qu'on est sans Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et quand on cède notre vie à Dieu, Dieu nous dit qu'il vient nous habiter par son Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient nous habiter, ça nous change à tout jamais. On sera plus jamais la même personne. On va être en amour avec Dieu et on va vouloir marcher et le servir, pas parce qu'on veut acheter notre place au ciel, mais parce qu'on l'aime puis on veut le servir puis on est en amour avec Dieu. C'est ça la différence entre la religion et avoir une relation avec Dieu. Et c'est ça que Dieu veut nous offrir aujourd'hui, une relation vivante avec Dieu. Mais quand on entend l'Évangile que tous les chemins mènent à Dieu, bien là, les gens aiment ça. Pourquoi? Parce qu'on aime ça respecter les gens. On aime aimer les gens. Moi aussi, j'aime ça aimer les gens. Pensez-vous que j'aime ça marcher sur les orteils des gens puis les déranger? Personne n'aime ça. Mais si on aime assez les gens, on va leur dire que c'est faux, ça. Les chemins ne mènent pas tous à Dieu. Est-ce que tous les chemins mènent à Paris? Supposément oui. Hein? C'est ça qu'ils disent, c'est l'expression. C'est pas un bon exemple. Mais est-ce que tous les chemins mènent à Rome? Supposément ça aussi. Oubliez ça. Non, mais sérieusement, est-ce que tous les chemins mènent à Bromont? Non, faut prendre l'autoroute 10 et puis il y a un chemin logique sur la terre, on sait qu'il y a un chemin qui rentre dans la bonne direction. Pareillement, si Dieu qui a vu notre état en tant qu'être humain, on était sans lui et puis là il a dit je vais venir m'incarner dans la personne de Jésus-Christ, je vais vivre cette vie parfaite pour eux, mais ça c'est la solution pour l'être humain. Il n'y en a pas créé d'autres solutions. J'étais en avion et on dirait à chaque fois que je prends l'avion, il y a quelqu'un à côté de moi qui me parle de Dieu parce qu'il me dit ben qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis bingo La conversation vient de démarrer. Mais là, il y a une femme qui était une conférencière. Moi, je m'en allais prêcher dans l'Arctique canadien. Et puis, elle s'en allait faire une conférence là-bas. C'était une conférencière de motivation, tout ça. Et puis là, elle dit, ah bien, moi, je crois que tous les chemins mènent à Dieu. Et puis, j'ai dit, ah oui? J'ai dit, avez-vous vu le clip où on voit les rats dans un temple en Inde? Vous savez, en Inde, ils ont des temples dédiés aux rats. Connaissez-vous ça? Et là, on peut parler de toutes sortes de religions, mais c'est pas l'objectif ce matin. Mais c'est juste de voir que les gens, ils vont au temple des rats. Et puis, pour eux, ces rats-là sont Dieu pour eux. Ils vont adorer ces rats-là. J'ai vu un prêtre qui est vraiment... honnête, là, il est sincère, vraiment sincère. Il est sincère, il va au temple, il enlève ses chaussures. Et puis là, il y a plein de rats qui se promènent partout dans le temple. Et là, on le voit, il y a un grand bassin avec du lait. Et là, eux, ils vont nourrir les rats, ils vont faire toutes sortes de choses pour bénir les rats. Et puis là, on voit dans le lait, je vais vous décrire un petit peu, juste vous faire comprendre, quand on dit « tous les chemins mènent à Dieu », ben si c'est vrai, ça aussi c'est vrai. Je vais juste vous dire, pensez-y. Les rats sont là autour du bassin. Ils sont tout autour du bassin. Il y a du lait, il y a des excréments qui flottent. On voit le prêtre qui prend une coupe comme ça, il coupe, il prend ses mains et puis il se met à boire le lait avec les excréments. Et puis il dit, là il mange une banane et puis il nourrit le rat. Comme ça dans le clip, c'est tout vrai là que je vous dis là. Et puis il nourrit le rat avec la banane et là vu qu'il y a de la salive du rat sur la banane, il lui prend une bouchée et puis il dit, là c'est encore plus sain. Là j'ai mangé quelque chose d'encore plus sain. Je vous dis ça aujourd'hui, est-ce que c'est pour me moquer? Non, c'est pour vous faire réaliser, quand on dit que tous les chemins mènent à Dieu, ça veut dire que vous croyez que l'adoration d'un rat, que c'est la même chose que d'adorer Jésus-Christ. Voyez-vous, il y a une différence entre un rat et Jésus-Christ. On est rendu dans une société où on doit le dire. Puis en le disant, les gens vont dire, ben, tu manques d'amour. Non, je m'excuse. Si ton enfant est malade, même si tu pries très fort à ce rat-là, rat, protège mon enfant, rat, guéris mon enfant, je m'excuse. Le rat ne fera rien pour votre enfant. C'est par amour que je vous le dis. Ça ne donne rien de prier à ce rat-là. Ça dérange des gens, je sais. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on veut, c'est de croire la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais là, il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais c'est exclusif. Vous êtes intolérant, c'est exclusif. » Oui, c'est exclusif. Il y a un chemin qui mène vers le ciel, son nom est Jésus. Si on ne croit pas ça, on dit que Jésus est menteur. Ne dites pas que Jésus est un grand enseignant ou qu'il est prophète parce que vous faites de lui un menteur si vous ne croyez pas ce qu'il dit. Dans Actes 4, verset 12, Jésus, il est écrit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus l'a dit ici, Jésus lui-même, « Il y a de salut en aucun autre. » Cherchez pas à droite et à gauche, cherchez dans la parole de Dieu, vous allez retrouver celui qui est là pour nous sauver, son nom est Jésus. C'est écrit dans la Bible, « Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Mais là, vous avez dit, « Oui, mais il y a plein de gens que je connais qui ne servent pas Jésus. Qu'est-ce qui va se faire avec ces gens-là? » N'inquiétez-vous pas des autres, pensez à votre éternité éternelle. Parce que l'éternité, c'est long, longtemps. La Bible dit dans Matthieu 7, 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » C'est très populaire d'endosser tout ce qui est prêché dans le monde et dire « c'est correct ». Mais la Bible nous dit « le chemin est resserré ». Et ça nous coûte des fois notre réputation, des fois ça nous coûte d'autres choses, des fois ça nous coûte des amis. Je connais, vous connaissez Joyce Meyer, elle a reçu une touche de Dieu dans sa vie et elle a perdu tous ses amis chrétiennes. Des fois, juste servir Dieu, on peut perdre même nos frères et nos sœurs. Dans Ésaïe 43, verset 10, il est écrit, « Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. » Donc, si vous pensez peut-être devenir Dieu un jour, la Bible dit, « Il n'y en aura point. » Vous savez, dans notre société, ça dit également, non seulement est-ce que Dieu, c'est comme un homme, mais nous pouvons devenir Dieu un jour, et nous avons tous Dieu en nous, donc on peut tous devenir Dieu. La Bible nous dit, dans Ésaïe 43, 10, « Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. » Amen. Ésaïe 44, verset 6, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Je vous dis la Bible ici ce matin. Psaume 135, verset 5 à 7, « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux, avec un petit dé. Vous pouvez vous créer un dieu de plâtre, vous pouvez vous créer un dieu de bois et prier très très fort, vous flageller et croire et espérer que l'objet va venir vous secourir. Mais vous placez votre foi à la mauvaise place. Il y a un seul Dieu, son nom est Jésus. » Une autre chose que Oprah enseigne, Oprah dit, Dieu, ce n'est pas quelqu'un en qui nous pouvons croire, mais nous devons ressentir Dieu. Dieu, c'est quelque chose que nous ressentons. Et là, elle dit ça avec un beau sourire, avec ses cheveux bien coiffés. Allons, une pause publicitaire. Ça, cet évangile-là, Dieu, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Certainement, on peut ressentir la présence de Dieu. Quand Dieu envahit une place, on ressent une bénédiction, on ressent sa présence. Mais voyez-vous la différence entre le fait de ne pas croire en Dieu et de croire qu'on peut juste ressentir Dieu? Il y a une différence. Jean 3, 18, Jésus dit, celui qui croit en lui, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Déjà jugé, en simplement disant qu'on ne doit pas croire en Dieu. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur nous si nous ne croyons pas en Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous dérange un message comme ça? J'espère que non, parce que peut-être certains d'entre vous, vous avez été influencés par la pensée du monde qui dit que tous les chemins mènent à Dieu. Mais c'est faux. Par amour, il faut dire aux gens la vérité que Jésus est le seul qui est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Jésus est le seul qui a fait ça. Quand j'étais jeune, je me souviens, je demandais à ma mère, mais maman, en allant à l'école, je disais, les gens enseignent toutes sortes de religions. Qu'est-ce qui dit que nous autres, on a la bonne affaire? Puis ma mère me dit, c'est pas une question de religion, c'est juste une question de relation. C'est pas une question de choisir quelle est la bonne église, quelle est la bonne religion. C'est de rencontrer le seul qui est ressuscité d'entre les morts. En connaissez-vous d'autres qui ont été morts, ressuscités d'entre les morts? Non, Jésus est le seul qui a payé le prix. Il est la seule réponse. Et c'est pas un message populaire, mais je vais le prêcher quand même. Oprah, une autre chose de l'évangile d'Oprah, elle dit, je suis guidé par ma propre conscience. Et c'est comme je vous ai dit tantôt, Jésus n'est pas venu sur la terre, selon son évangile, n'est pas venu sur la terre pour payer la dette de nos péchés parce qu'on était pécheurs. Non, il ne faut même pas penser qu'on est pécheurs. Vous savez, aujourd'hui, on ne pense pas qu'on est pécheurs parce qu'on a été pardonné. Là, on réalise qu'on est des saints. On n'est pas condamné, on n'est pas malheureux. Non, on est dans la joie, on est dans la paix, mais parce qu'on a passé par la porte d'entrée. Amen. On a passé par celui qui nous a sauvés. Mais dans Proverbes 14, verset 12, la Bible dit, « Telle voie paraît droite à un homme. » Mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous savez, des fois, quand on parle avec les gens disent, ben moi, la façon que je vois les choses, c'est comme ça. Une autre personne, ben moi, je pense, c'est comme ça. Une autre personne, ben personnellement, moi, je ressens que c'est comme ça. Mais savez-vous qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez, ça change rien? C'est vrai? Je crois que la porte est là-bas. La porte est là. OK? Je crois vraiment sincèrement que la porte de sortie est au plafond. Je crois ça personnellement, là, vraiment, je suis convaincu dans mon cœur. Je suis vraiment, vraiment convaincu et je suis sincère. T'oses dire que la porte n'est pas là? Je suis sincère dans ma croyance. La sincérité ne crée pas la vérité. 1 plus 1, c'est 2. Même si on croit sincèrement que 1 plus 1 est 3, c'est toujours la même chose. On est sincèrement dans l'erreur lorsqu'on croit qu'on doit être guidé par nos émotions. Parce qu'un jour, on peut penser... telle chose est vraie, une autre journée, on a changé d'idée, on a écouté un reportage à la télévision, et là, on a changé notre façon de voir les choses. Tout d'un coup, on ne pense plus comme avant. Est-ce que ma vérité d'hier est maintenant le mensonge d'aujourd'hui? Dieu ne change pas. Sa vérité est éternelle. Sa Bible, la parole de Dieu, la lettre d'amour que Dieu a écrite pour l'être humain, elle ne change pas. Si je crois Dieu aujourd'hui, je vais croire Dieu demain, et il n'y a pas de changement dans cette parole. Amen. Donc, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça, c'est quand on est guidé par notre raisonnement. Et ça, c'est l'homme qui veut trouver son propre chemin par l'orgueil personnel. Mais si on est prêt à faire mourir notre orgueil et dire, « Seigneur, je vais te laisser m'informer. Je vais te laisser m'enseigner. Seigneur, j'ai assez d'humilité pour dire, je veux te donner ma vie et montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin de la bénédiction, le chemin de la vie éternelle. » Il faut avoir de l'humilité. Vous qui êtes ici ce matin, vous avez eu, l'humilité de rentrer par cette porte-là, donc bravo, et vous avez eu l'humilité de dire, je suis pas capable, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Il y a des gens qui ont dit, ben toi, pour toi, la religion, c'est une béquille. Non, je m'excuse. Moi, premièrement, c'est pas la religion, c'est une relation avec Dieu. C'est pas une béquille pour moi, c'est mon ascenseur. Je suis pas juste un petit peu dépendant sur une béquille, je suis totalement dépendant dans l'ascenseur. Sans lui, je ne peux pas monter, je peux même pas essayer, je suis pas sur une béquille, mettez-moi dans un ascenseur et ça, c'est mieux comme description. Il y a des gens, des fois, qui disent, bien là, moi, j'ai ma religion, dérangez-moi pas avec ça, laissez-moi tranquille. Et qu'est-ce que je trouve un petit peu spécial? Tu sais, admettons, j'allais au gym. Je vais m'inscrire au gym, je paye l'abonnement. Et là, je dis à tout le monde, je me suis inscrit au gym, on va dire énergie cardio, c'est pas ma place, mais admettons. Je vais chez énergie cardio et je suis un énergie cardioïte. OK? Et là, tu me dis, ah oui, moi, je suis un énergie cardioïte et puis je suis vraiment content. Dérangez-moi pas avec les autres gyms, je veux rien savoir. Je suis content chez énergie cardio. Mais est-ce que tu vas des fois chez énergie cardio? Jamais de la vie, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Mais je suis un énergie cardioïte non pratiquant. Mais ça change pas grand-chose dans une vie, aller dans un gym et ne jamais pratiquer les choses. Pensez-y. Dans le naturel, on comprend ça, mais dans le spirituel, on dit toutes sortes de niaiseries, puis on pense que c'est correct. Non, mais c'est vrai. Si on va jamais au gym, pensez-vous que vous allez vous développer les muscles? Non. Si vous n'allez jamais à l'église, allez-vous développer les muscles de la foi et grandir dans les voies de Dieu? Non. C'est pareil. Ça marche pareil. Donc, faut servir de la sagesse que Dieu nous a donnée. Dans Proverbe 9, 10, le commencement, remarquez ceci, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est la crainte de l'Éternel. Ça veut dire qu'on a une révérence pour Dieu. On a une révérence pour Dieu. Quand Dieu parle, si nous autres, on disait d'autres choses, mais on vient de découvrir que qu'est-ce qu'on croyait, qu'est-ce qu'on disait, c'était en dehors de la volonté de Dieu. On va changer notre fusil d'épaule, puis on va dire, je me suis trompé, et je vais croire Dieu maintenant. Faut avoir l'humilité pour marcher avec Dieu. Ça, c'est une des choses. Ça coûte un prix. Des fois, là, faut être prêt à marcher sur notre orgueil, puis dire, je me suis trompé, ça donne que Dieu avait raison et pas moi. Mais il y a des gens qui disent, ben, c'est moi qui ai raison. Mais la Bible dit ça. Ouais, mais c'est moi qui ai raison. Continue comme ça, mais je vous dis, moi, je vous donne ça comme conseil. Dieu ne se trompe jamais. OK? Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Dieu, il ne se trompe jamais. Dieu a toujours raison. Donc, ça, je peux vous le dire, ça. Mais là, il y a des gens, oui, mais il faut être guidé par nos émotions. Mais c'est très, très, très dangereux. C'est très dangereux d'être guidé par vos émotions parce que vos émotions vont changer constamment. Mais si vous voulez avoir vraiment la paix dans votre cœur, que Dieu seul donne, la joie que seul Dieu peut donner, ça se trouve dans la parole de Dieu. Mais il y a des gens même à ceux qui vont dire, non, mais lisez pas la Bible. Pendant des années, vous savez, c'était comme, ne lisez pas la Bible, ne lisez pas la Bible, vous allez devenir fou. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Vous allez devenir fou. Non, mais la Bible nous dit que lorsqu'on est renouvelé dans notre intelligence, qu'on peut discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça ne dit pas qu'on va virer fou, mais quand on découvre que Dieu nous aime, que Dieu a un plan pour notre vie, que Dieu, il nous donne des promesses pour notre vie, il dit qu'il va nous guérir quand on est malade, il nous donne toutes sortes de belles promesses. Quand on découvre ces promesses-là, on dit « Wow! » En plus, c'est écrit « Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. » Amen! Donc, c'est merveilleux. Mais Oprah dit « On doit croire la parole de l'homme. » Et puis, elle invite des invités dans son émission qui contredisent la Bible. Mais dans Osée 11, verset 9, Osée 11, verset 9, Dieu a dit « Je suis Dieu et non pas un homme. » Dans Romains 3, 4, ça dit « Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. » Donc, même moi, là, si moi je vous dis des affaires, allez voir dans la Bible, voir c'est qui a raison. Si je vous dis un dimanche matin, finalement, là, j'ai découvert que c'est les extraterrestres qui nous aiment bien gros, puis c'était ça tout au long. Posez des questions, s'il vous plaît. Posez-vous des questions. C'est vrai? C'est vrai? Je sais que vous allez le faire, de toute façon, je ne dirais pas ça. Mais que Dieu soit reconnu pour vrai, c'est Dieu qui a toujours raison. Et tout homme pour menteur. Remettez en question ce que les hommes vous disent, parce que les hommes peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Jérémie 17, 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Il y en a qui vont dire, « Ouais, mais qu'est-ce qui fait la différence entre toi et quelqu'un d'autre qui prêche de la même Bible? » On a plein de gens partout qui disent, qui croient en Dieu, dans le Dieu de la Bible, mais pourtant, ils ont toutes leurs interprétations différentes. Y a-t-il quelqu'un qui vous a déjà raconté ça? Peut-être. Oui. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que tous ceux qui reçoivent la Bible comme la lettre d'amour de Dieu et qui ne rajoutent et qui n'enlèvent rien, on a tous la même interprétation sur le message essentiel, celui de la vie éternelle. Nous avons tous la même compréhension. C'est vrai. Qu'est-ce que je vous dis? Nous croyons tous que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui, il y a des différences. Il y en a qui vont dire, ben, les miracles, c'est plus pour aujourd'hui. C'était pour, là, 2000 ans avec les apôtres. Savez-vous, vous pouvez ne pas croire dans les miracles et aller au ciel quand même? Oui, vous pouvez croire que Dieu veut que vous soyez malade et aller au ciel quand même. C'est vrai. Il y en a des gens qui disent, ben, moi, je crois que Dieu veut qu'on soit malade des fois. Correct. Crois ça. T'as le droit. Si tu penses que Dieu veut que tu sois malade, correct, tu as le droit d'y croire et tu vas te rendre au ciel quand même. Savez-vous, c'est vrai ça. Mais le message de base, nous sommes tous d'accord sur l'essentiel. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Le problème arrive quand on dit « la Bible est bonne, mais vous avez besoin de notre Bible par-dessus pour vous aider à interpréter la Bible ». C'est là où la lettre d'amour devient compliquée. Je vous explique juste rapidement. Admettons, ça, c'est une lettre d'amour que vous m'avez écrite, OK? Vous êtes venu chez Mathilde et moi, on a eu un beau souper ensemble. Vous me laissez une belle lettre. « Hey, j'ai eu du bon temps ce soir. Merci beaucoup, on vous aime bien. » Vous me laissez une belle lettre comme ça. Mais là, il y a le voisin qui vient d'arriver, le pasteur Jean. Il rajoute un autre livre. On va l'appeler le livre de Mormon. Puis là, l'autre livre, ça change un petit peu le contenu. Ça dit... J'ai bien aimé ça être chez vous. Cependant, la nourriture était terrible. Vraiment, là, ça m'a rendu malade. Vos enfants, c'est des mal élevés. Je trouve votre décoration, c'est vraiment pas de goût. Jean, il est pas comme ça en passant. Là. Mais là, pensez-vous que l'addition de cette lettre va changer mon interprétation de la soirée? Oui, ça va changer ma vision des choses. Je vais dire, finalement, ils nous aiment pas pantoute. Comprenez-vous? Ou encore, si un passage qui dit « Jésus est le seul chemin » et là, quelqu'un vient l'arracher, bien là, ça va changer mon interprétation également. Mais si on prend la Bible et on dit « on n'enlève rien, on rajoute rien, on croit ce que Dieu dit », eh bien, point final, on a tous la même compréhension. Vous pouvez vous promener à toutes les églises de Granby, ils vont tous vous dire que Jésus est le seul chemin. Amen! Donc, ça, c'est en anglais, on dit un « cop-out ». En français, je le sais pas. Mais ça veut dire c'est une défaite. C'est une excuse pour ne pas s'adresser à notre problème personnel. On dit « ouais, mais qu'est-ce qui dit que toi, tu as raison? » J'ai pas raison. Dieu a raison. J'ai pas raison. C'est pas moi la solution. Amen. Mais c'est vrai. On n'élève pas une religion, on n'élève pas une église, on n'élève pas un pasteur, on élève Jésus. Et puis, si vous aimez Jésus et vous aimez sa parole, on vous invite à découvrir sa lettre d'amour pour vous. Et prenez le temps, lisez la Bible, demandez, Seigneur, si c'est vrai, qu'est-ce que ce pasteur-là, il dit, ben, parle-moi, montre-moi si c'est vrai. Et vous allez voir, il va commencer à vous parler. Il y en a des scientifiques qui ont commencé à lire la Bible pour la détruire, et en la lisant, sont devenus des enfants de Dieu. C'est merveilleux, parce que la Bible de Dieu, c'est une lettre d'amour vivante, une lettre vivante. Amen. Hey, je suis rendu à page 1 de mes pages. Ouh. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vous donner l'opportunité de donner votre vie à Jésus-Christ. Vous donnez pas votre vie à Joel Spinks ou à l'équipe de la louange. Vous donnez pas votre vie. Qu'est-ce qui est important de réaliser? C'est que le Seigneur Jésus, il vous aime avec un amour éternel. Dieu nous a vus. On était sur la terre. On était dans nos péchés. On a commis des péchés, puis on était pognés là-dedans. On était pris dans ces péchés-là. Et Dieu a dit, écoutez, je sais qu'il peut pas se sauver. Je vais venir sur la terre et je vais vivre cette vie parfaite qu'ils sont pas capables de vivre. Je vais être puni à leur place. Je vais payer littéralement pour eux. Je vais aller souffrir, le martyr, la croix. Aujourd'hui, c'est facile de dire oui, mais lui, ça lui a coûté cher. Il a payé au prix de sa vie. Et là, il a reçu tous les péchés, toutes les maladies, il a tout porté sur lui. Et là, aujourd'hui, non seulement il a porté ça, il est mort. 3 jours plus tard, comme il avait prédit, il est ressuscité d'entre les morts et il a démontré qu'il était plus puissant, il était plus puissant que la mort. Et aujourd'hui, il a été devant... plein de témoins qui l'ont vu ressusciter. C'est l'homme qui a marqué l'histoire, ce Jésus-Christ. Et on le sait même, on dit en anglais « before Christ, after Christ », mais on le sait parce qu'il a touché la planète, ce Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est merveilleux? Quand on croit ce qu'il a fait, on dit « je sais, Jésus, tu l'as fait pour moi ». Si on croit vraiment que Jésus a fait ça pour nous, c'est bien beau de croire « oui, je crois qu'il est venu ». La Bible dit « les démons croient et ils tremblent ». Ils savent que Dieu existe, mais c'est pas assez de le croire dans notre tête. Il faut qu'on dise « Seigneur, je crois que tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour moi. » Et quand on réalise « j'ai besoin de Dieu dans ma vie, j'ai besoin d'être lavé », si vous pensez de continuer par vos propres œuvres, vous savez, si je posais la question aujourd'hui, si vous mourrez aujourd'hui, OK, et là, vous passez devant Dieu, devant son trône, et puis Dieu vous demande, pourquoi je devrais vous laisser entrer au ciel? Et puis vous dites, ben parce que je suis une bonne personne, ou parce que j'ai donné beaucoup d'argent, ou je suivais les 10 commandements, ou j'allais à l'église, je faisais ci, puis je faisais ça. Souvent, les gens vont répondre comme ça. Ils vont dire, ben j'ai fait quelque chose, mais le « je » ne rentre pas dans l'équation à ce niveau-là. Parce qu'il faut réaliser, si vous dites, j'ai reçu le pardon, là, Dieu dit, ah, oh, super, excellent, je te laisse rentrer. Parce que ceux qui sont séparés de Dieu pour l'éternité, ce ne sont pas les méchantes personnes, ce sont les personnes qui ont refusé le pardon, tout simplement. Ceux qui sont accueillis au ciel, qui sont avec le Seigneur Jésus pour l'éternité, c'est ceux qui ont réalisé qu'ils avaient besoin de lui, qui ont demandé, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Et Dieu dit, super, je t'accueille, je te reçois. Il y a une promesse que je veux vous lire dans Hébreux 13, verset 5. Ça dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Quand le Seigneur nous reçoit, il ne va jamais nous laisser tomber. Des fois, on a eu un mauvais père sur cette terre, qui était là, qui n'était pas là, qui nous laissait tomber. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prêchons, le Dieu de Jésus qu'on prêche aujourd'hui, c'est un Dieu qui vous aime, un Père éternel qui vous aime. Il veut vous avoir avec lui pour toute l'éternité. Ça va vous coûter une chose, votre volonté de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et si vous le faites, vous ne serez plus jamais pareil. Alors, pendant ce matin, que tout le monde vous penche vos têtes, vous penchez vos têtes ce matin. On a proclamé un nom aujourd'hui. C'était rien de compliqué. Vous avez probablement rien appris nécessairement. Sauf que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pendant que toutes les têtes sont penchées, moi, je suis seul à regarder. On ne vous gênera pas. On ne veut pas vous humilier. On veut juste voir ce matin, êtes-vous prêt à céder votre volonté pour la sienne? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, une ou deux personnes, ou trois, ou quatre, ou cinq, qui voudrait dire, Jésus, je te donne ma vie. Je te cède ma vie aujourd'hui. Je te cède ma vie. Je m'abandonne à toi aujourd'hui. Faites-le simplement en levant la main. Et Dieu va vous voir. Merci. Amen. C'est super. Je vais te demander encore. Merci. C'est bon. Là, en levant la main, vous ne dites pas oui à une religion. On ne veut rien savoir de la religion. On n'est pas en train de vous proposer une religion, une église. On est en train de dire, voulez-vous dire oui à Jésus? Oui à Jésus, oui, je te donne vraiment ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre. Je suis tanné de forcer. Je veux te donner ma vie. Amen. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais demander à tout le monde, tous ceux qui croient dans le message que j'ai prêché, que Jésus est est Dieu et que Jésus a dit la vérité. Si vous croyez que Jésus n'est pas menteur, je veux vous inviter à prier avec moi. Amen. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je crois ta parole. Je crois que tu es le chemin. Je crois que tu es la vérité. Je crois que tu es la vie. Je te demande de me pardonner, de me laver, de me purifier. Je te donne ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. En faisant cette prière, vous êtes devenu un enfant de Dieu. C'est aussi simple que ça. Vous êtes autant sauvé, autant un frère et une sœur que je suis avec les autres personnes de l'Église. Parce que c'est juste une question de cœur. Je vais vous lire un dernier verset dans Romains. Un texte pour juste vous expliquer exactement comment c'est simple ici. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » En confessant de la bouche, en disant, « Oui, je crois. » Vous savez, le fait de le décréter de votre bouche vous transfère d'un royaume à un autre. Vous passez de la mort à la vie. C'est le plus grand miracle qu'un être humain peut vivre, celui de la nouvelle naissance. On a un Père humain, mais là, vous recevez le Père du ciel, Père divin, comme votre Père. Et maintenant...
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.